Vous écoutez, on lit pour vous.
Les femmes victimes de violences et de préjugés des soignants. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 2 juin 2024 dans la presse. Les femmes victimes de violences font souvent l'objet de discriminations à cause d'un diagnostic psychiatrique selon une nouvelle étude. Ça constitue une deuxième victimisation par les services publics. Ces femmes ont vécu plusieurs obstacles dans leur quête de service ou dans leur interaction avec les professionnels, dit Catherine Larose-Hébert, professeure de travail social à l'Université TELUC, qui présentait ses recherches au dernier congrès actuel de l'AFAS, à la mi-mai 2024 à Ottawa. Elles faisaient face à des préjugés devant ce qu'elles avaient vécu parce qu'on ignorait les répercussions de la violence sur leur santé psychologique. Des intervenantes interviewées ont confié à Mme Larose-Hébert que 75% des femmes qui ont recours au service de leur organisme ont un diagnostic psychiatrique. Ce type de préjugé est appelé « sanisme », défini notamment par la pathologisation et la médicalisation de toutes les formes de détresse. Certains professionnels ont tendance à ne pas écouter les femmes quand elles tentent de s'exprimer, par exemple sur la violence vécue et les répercussions de cette violence, souligne Catherine Larose-Hébert. Dans un rapport de recherche publié à l'hiver 2023, des femmes évoquent notamment des policiers, des travailleurs sociaux ou d'autres intervenants qui leur demandent si elles ont bien pris leur médication quand elles se laissent aller à la colère face à la violence dont elles ont été ou sont encore victimes. Elles ne pouvaient pas être en colère et devaient simplement dire qu'elles étaient en colère, explique une autre étude publiée à partir du même projet. La pathologisation de la détresse par l'entremise de diagnostics psychiatriques est endémique. Le discours de la victime de violence est discrédité parce qu'elle a un problème de santé mentale, dit Mme Larose-Hébert. Il va y avoir une revictimisation par les services publics. Le diagnostic psychiatrique le plus fréquent était le trouble de personnalité limite. Le rapport cite une célèbre étude des Américaines Claire Shaw et Gillian Proctor, publiée en 2005 dans la revue Feminism and Psychology, qui avançait que ce diagnostic était l'équivalent de l'hystérie au début du 20e siècle. Une étiquette accolée aux femmes qui ne se conformaient pas aux stéréotypes en se montrant agressives et indépendantes ou en n'internalisant pas leurs sentiments. La grande majorité des diagnostics de personnalité limite sont donnés à des femmes. Des études américaines ont cependant montré que les hommes sont presque aussi susceptibles d'avoir des manifestations cliniques de ce trouble, mais qu'ils reçoivent moins souvent un diagnostic, notamment à cause de l'automédication par des intoxicants. Surpathologisation. Le rapport déplore aussi la difficulté d'accès aux services de santé mentale, notamment les psychiatres. N'y a-t-il pas une contradiction avec la dénonciation du sanisme? La santé mentale est un concept très large et global qui implique l'atteinte ou le maintien du bien-être. Elle implique aussi des déterminants sociaux de la santé mentale comme l'accès à un logement, à un revenu décent, à un environnement exempt de violence, notamment, dit Mme Larose-Hébert. L'accès difficile à la psychothérapie et au soutien psychosocial mène souvent à un traitement exclusivement pharmacologique de la détresse. Nous ne nions pas que certaines femmes estiment bénéficier d'un support pharmacologique. C'est plutôt le fait qu'il existe une surpathologisation de la détresse de certaines femmes, dit Mme Larose-Hébert. Le sanisme tire son origine dans des systèmes d'oppression un peu comme le patriarcat, qui visent les personnes ayant un diagnostic psychiatrique, selon Mme Larose-Hébert. Est-ce que le sanisme était davantage pratiqué par les hommes que par les femmes? Ce n'est pas ce qui a été observé, répond Mme Larose-Hébert. Les minorités ethniques en était-elle davantage victime? L'échantillon étant restreint, je n'ai pu analyser comment tous ces systèmes d'oppression influençaient leurs expériences. Je me suis plutôt appuyé sur les systèmes qui les affectaient toutes, soit le sanisme et le sexisme. Parmi les participantes, on avait une personne trans, une personne autochtone, une personne d'une minorité visible. Mais on n'a pas voulu donner trop d'informations parce qu'on ne voulait pas que les femmes puissent être identifiées. L'impact du statut socio-économique n'a pas été spécifiquement étudié. Une étudiante se penche sur l'intersection avec le statut socio-économique plus faible. Mais je dirais que ça ne va pas mener nécessairement à des traitements différenciés. C'est sûr que beaucoup des participantes étaient très en dessous du seuil de pauvreté, a observé Mme Larose-Hébert. L'accompagnement par un proche dans les rencontres avec les services publics peut améliorer les choses. Ça peut faire une petite différence, dit Mme Larose-Hébert, mais le fait d'avoir un diagnostic ou des expériences de violence, ça rend les relations avec les autres plus compliquées. Ça peut faire en sorte que les proches aient de la méfiance ou veuillent se distancer. Le réseau social peut aussi s'effriter du fait de ces expériences en lien avec la santé mentale et la violence. Quelle est la prochaine étape? On a distribué en ligne des vignettes d'informations qui vulgarisent la recherche. On a rencontré des intervenants et je demande une subvention pour l'organisation d'événements scientifiques et de mobilisation des savoirs. Je suis aussi en démarche pour développer un programme de formation pour les travailleurs et les professionnels des services publics. En savoir plus, 75% proportion de femmes parmi les diagnostics de troubles de personnalité limite aux États-Unis. Source Plus One. 6,2% proportion de femmes souffrant de troubles de personnalité limite aux États-Unis selon une extrapolation à partir d'un échantillon représentatif. Chez les hommes, cette proportion est de 5,6%. Source Journal of Clinical Psychiatry. C'était « Les femmes victimes de violences et de préjugés des soignants », un texte de Mathieu Perrault paru le 2 juin 2024 dans la presse.
Chers hommes hétéros, les gays pourraient voler toutes vos blondes. Une chronique de Samuel Larochelle parue le 20 mai 2025 dans le magazine Fugue. Vous pensez peut-être que mon titre est une blague, mais si vous rêvez secrètement que l'extrême droite prenne le pouvoir, que les femmes restent à la maison et que les gays retournent dans le placard, sachez qu'on va voler vos blondes les unes après les autres. Pour le bien de cette chronique, je me suis inspiré de certains créateurs de contenu, dont Mr. Williams sur TikTok, pour réfléchir aux mariages lavande qui ont existé pendant des décennies. Un mariage lavande, c'est quand deux personnes concluent une union de convenance pour dissimuler l'orientation sexuelle d'une des deux personnes ou des deux. Maintenant, je ne veux pas en entendre un affirmer que je n'ai aucune chance de séduire la gente féminine parce que j'ai pas ce qu'il faut pour satisfaire les femmes au lit. Premièrement, elles vont être libres de s'amuser avec d'autres gars sans que j'aie un mot à dire sur le sujet. Deuxièmement, je suis pas mal certain que je peux les faire mouiller grâce à mon arme secrète. Je vais partager la fucking charge mentale. Quand elles vont réaliser que je suis capable de publier 34 livres par mois, d'être journaliste à temps plein et d'organiser une douzaine de shows par année, tout en ayant une vie sociale, sportive et culturelle, elles vont voir qu'elles n'auront pas besoin de mettre des repas dans le congélo en prévision des soirs où je suis responsable des enfants. En échange de notre mariage de convenance, je vais lui proposer tous les soirs un massage complet sans me tanner après 3 minutes pour avoir du mauvais sexe. Promis, juré, je ne chialerai pas quand elle va proposer d'aller magasiner. Et non, ce n'est pas à cause du cliché voulant que les homos aiment donc bien faire les boutiques, comme si on était des robots fabriqués dans la même usine à gué. C'est parce que je suis capable de trouver les mots pour la convaincre qu'elle a trouvé les bons morceaux sans les réessayer 35 fois, avant d'aller au cinéma pour fantasmer sur nos acteurs préférés. Autre avantage pour elle, quand on va marcher sur la rue, il n'y a aucune chance qu'elle se fasse voler avec son mari homosexuel, parce que j'ai passé ma vie à scruter tous les espaces où j'arrive pour éviter d'être jugé ou de me faire battre. Je vous le dis, les femmes vont être fières de se pavaner avec leurs maris gays qui prennent soin de leurs cheveux, de leur face ou de leur forme physique, parce qu'on va quand même grouler sous les dictats dégueulasses de la beauté homosexuelle pour aller fourrer dans les lieux clandestins. D'ailleurs, je prévois glisser dans le sac à main de ma future femme une liste des meilleures places où bruncher en l'encourageant à rester là-bas pendant des heures avec ses chums de filles, pendant que je couche avec le jardinier dans le gazebo. Je vais même aller la chercher en voiture pour qu'elle boive autant de mimosa qu'elle veut. À son retour, je vais lui mettre du vernis à ongles pendant qu'on fait un marathon de Love is Blind, Grey's Anatomy et Gilmore Girls. Quand ça va être le temps de se préparer pour assister au mariage de son cousin qui vit à la Valtrie, elle n'aura pas besoin de se battre pour me convaincre de porter une chemise et un mouchoir qui matchent avec la couleur de sa robe, parce qu'on va tout avoir acheté un soir sur Internet. Pendant que les petits monsieur hétéros se donnent l'impression d'être encore en forme parce qu'ils jouent au hockey cosome dans un gymnase de cégep, même si, dans le fond, ils passent à peine 12 minutes sur le terrain. Rendu au mariage, je vais remarquer le rouge à lèvres sur ses palettes, la brindille poignée dans ses cheveux et la bretelle qui dépasse de sa robe, parce qu'elle n'a jamais eu besoin de m'avertir quand elle raccourcissait ses cheveux d'un demi-pouce. À l'église, je vais lui fournir un mouchoir pendant qu'elle pleure, parce que les vœux des mariés sont beaucoup trop touchants, en sachant très bien qu'on va juger le linge de tout le monde dans le char entre l'église et la salle. Plus tard, en soirée, on va se bourrer la face dans le gâteau sans culpabilité, parce qu'on va courir le lendemain dans nos leggings moule-cul qu'on a achetés ensemble. Et quand le party va commencer, on va sortir nos meilleurs moves sur une toune de Chapel Roan pendant que les petits dudes nous regardent sur les lignes de côté. J'entends déjà les messieurs hétéros prétendre qu'on les menace de soutirer leurs femmes, mais j'ai des petites nouvelles pour eux. Les femmes peuvent choisir pour elles-mêmes et il existe des situations où l'évidence est beaucoup trop forte pour la combattre. Ce que j'essaie de vous dire, les boys hétéros, c'est que vous devriez vous battre avec nous pour qu'on garde nos droits si vous voulez avoir encore un mince espoir de garder vos blondes. C'était « Chers hommes hétéros, les gays pourraient voler toutes vos blondes », une chronique de Samuel Larochelle, parue le 20 mai 2025 dans le magazine Fugue.
Au toit de la rue. Un texte de François-William Croteau paru le 30 avril 2025 dans Le Devoir. Comme bien souvent, j'étais récemment sur la Plaza Saint-Hubert et je m'apprêtais à traverser à mi-tronçon, là où le pavé de béton se poursuit d'un trottoir à l'autre, donnant ainsi l'impression d'un passage pour piétons, sans en être un. J'entame donc ma traversée et j'aperçois une camionnette qui est encore assez loin pour ne pas me sentir en danger. Même si le conducteur me voit et me regarde droit dans les yeux, il ne ralentit pas et freine seulement à la dernière seconde. Il ouvre sa fenêtre et se met alors à me crier dessus. Pourtant, sur ce tronçon de la Plaza, la rue Saint-Hubert est en fait une rue partagée. Selon le Code de la sécurité routière, CSR, une rue partagée permet aux piétons de marcher ou de traverser la chaussée à n'importe quel endroit. Une signalisation le rappelle d'ailleurs à chaque intersection, précisant que la limite de vitesse est ici de 20 km/h et que les automobilistes doivent céder le passage aux piétons partout et en tout temps. peu importe, pour ce conducteur, la rue appartient aux voitures, point à la ligne, pas aux humains. Il se croyait donc dans son plein droit d'intimider et d'engueuler un piéton, en l'occurrence, moi. Dernièrement, j'étais sur la rue Saint-Denis, juste au sud de l'avenue du Mont-Royal. Encore une fois, j'entame une traversée. Cette fois, je suis à un passage pour piétons très bien signalé. Si vous n'avez pas remarqué ces passages aménagés en même temps que le réseau express vélo rêve pour protéger les piétons, c'est peut-être que vous avez la vision de Mr. Magoo. Un automobiliste arrive à toute vitesse. Il voit très bien les quatre personnes que nous sommes sur la chaussée, mais freine à la dernière seconde, presque comme pour nous intimider. Il ouvre sa fenêtre et nous lance « Ôtez-vous de dans rue, colle !» Splendide. Comme sur la Plaza Saint-Hubert, la signalisation est pourtant claire. Selon le CSR, un passage pour piétons prioritaire impose au conducteur de s'arrêter, comme à un arrêt obligatoire, et de céder le passage si un piéton a entamé sa traversée. Avouez que vous voyez rarement un automobiliste s'arrêter gentiment à un passage pour piétons. Je sais, les cyclistes aussi, mais ce n'est pas là mon propos. On y reviendra dans une autre chronique. Je suis certain que ce genre de mésaventure vous est arrivé plus d'une fois. Vous vous engagez de plein droit à une intersection ou à un passage prioritaire et le conducteur vous fait sentir que vous n'avez pas votre place sur la rue. Nous avons beau multiplier les panneaux et la signalisation. Une fois le permis de conduire obtenu, certaines règles élémentaires semblent devenir secondaires. Le problème n'est pas un problème de signalisation, c'est un problème culturel. Il suffit d'aller un peu au sud de la frontière, quoique peut-être un peu moins ces temps-ci, pour constater qu'à peine avez-vous posé un pied sur la chaussée qu'un automobiliste s'arrête pour vous céder le passage, souvent avec galanterie. Pour contrer les comportements délétères, plusieurs villes mettent en place des mesures d'apaisement de la circulation. Ces entraves sont là pour réguler les comportements et favoriser un meilleur partage de la voie publique. Malgré les panneaux et la peinture au sol, la cohabitation entre usagers reste souvent difficile. Ce n'est pas une question de mode de transport, c'est une question humaine. D'ailleurs, le 27 février 2025, Amélie Pineda publiait dans Le Devoir le premier article d'un grand dossier sur la sécurité des piétons. Elle y montrait qu'entre 2019 et 2024, près de 42% des 215 piétons tués sur la route l'avaient été à cause de l'inattention ou d'infraction au CSR. Il est aussi important de préciser que, dans 33% des cas, le piéton était considéré comme lui-même en cause. Au Québec, contrairement à nos voisins du Sud, nous n'avons pas développé cette habitude de vigilance accrue au volant pour éviter de blesser ou de tuer des usagers vulnérables comme les piétons ou les cyclistes. Alors on les rend aussi responsables de leur sort. La route est un champ de bataille où chacun tente de prendre possession de l'espace. Récemment, la mairesse de Villeray-Saint-Michel Parc Extension, Laurence Lavigne-Lalonde, ironisait sur l'état de la chaussée en affirmant que les nombreux nids de poules allaient aider à apaiser la circulation. Il n'en fallait pas plus pour que les tenants de l'inertie l'accusent de faire la guerre à l'automobile. Ces populistes ont raison sur une chose. Oui, certains élus et certains gouvernements de proximité mènent une guerre, mais pas contre l'automobile. Ils mènent une guerre contre les comportements dangereux qui tuent encore trop de personnes sur nos routes. Tout cela n'a donc rien à voir avec une guerre contre la voiture, ni même avec la défense d'une prétendue idéologie anti-automobile. Ce que les populistes défendent sans gêne, eux, c'est une culture d'impunité sur la route qui considère que la rue appartient aux voitures. Les piétons y deviennent de simples intrus que l'on invite à se méfier avant de poser le pied sur la chaussée qui ne leur appartient pas. On aura beau améliorer le CSR et multiplier les mesures d'apaisement de la circulation, tant que cette mentalité perdurera, rien n'y fera. Changer les règles ne suffit pas. Il faut aussi changer de culture. C'était « Ôte-toi de la rue », un texte de François-William Croteau paru le 30 avril 2025 dans Le Devoir.
Montréal dangereux pour les enfants piétons. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 7 mai 2025 dans La Presse. La majorité des intersections et des rues de Montréal exposent les enfants à un risque élevé de collision, notamment lorsqu'ils se rendent à l'école, signale une nouvelle étude. Constat des chercheurs. Pendant un siècle, les aménagements urbains, en donnant la priorité aux déplacements en automobile, se sont faits au détriment des piétons, même les plus vulnérables. Les automobilistes avant les piétons. Depuis les années 1920, les villes ont investi des milliards pour dérouler le tapis rouge aux automobilistes. Pratiquement toutes les artères et intersections ont été aménagées ou réaménagées de manière à favoriser la circulation des véhicules motorisés. Cela s'est traduit par l'asphaltage complet du réseau, l'élargissement des voies et des intersections et l'utilisation et l'entretien de l'espace public pour y garer des véhicules privés. Ces choix ont un coût. À Montréal, la majorité des aménagements présentent un risque élevé de collision pour les piétons, notamment pour les enfants, signale une nouvelle étude pilotée par des chercheurs de Polytechnique Montréal en collaboration avec l'INRS et l'Université Laval. Est-ce que je laisserai mon enfant traverser ici? Pour amasser leurs données, les chercheurs ont tenu compte de l'avis d'experts en génie civil, en urbanisme et en santé publique, ainsi que des commentaires des enfants et de leurs parents. Plus de 60 variables ont ainsi été analysées, comme la largeur d'une rue ou d'une intersection, la vitesse maximale permise, le niveau de visibilité des conducteurs, le volume du trafic routier et la présence de véhicules lourds. Les gens se demandent parfois ce qui fait qu'une intersection présente un risque élevé ou pas, explique Shabnam Abdolali, chercheuse postdoctorale en génie civil à Polytechnique Montréal et co-auteur de l'étude. Une bonne approche est de se poser la question « Est-ce que je laisserai mon enfant traverser ici? » Quand on voit les choses sous cet angle, tout devient clair assez vite. Montréal, meilleur élève de la pire classe. Les chercheurs ont remarqué que les quartiers moins favorisés sont ceux où les déplacements à pied sont les plus hasardeux. Par exemple, les enfants ont accès à des déplacements à pied plus sécuritaires dans Outremont que dans Villeray-Saint-Michel Parc Extension, dit Mme Abdolali. Certains quartiers ont plus d'artères et moins de mesures d'apaisement du trafic. Toutefois, avec l'aménagement de pistes cyclables sur certains axes, de saillies de trottoirs verdis et de dos d'âne, Montréal fait diminuer petit à petit les dangers hérités de l'époque du tout à l'auto, signale Owen D. Waygood, professeur titulaire au département de génie civil, géologique et des mines de Polytechnique Montréal et co-auteur de l'étude. Montréal est le meilleur élève de la pire classe. En Amérique du Nord, la plupart des villes auraient un F. Montréal a quelque chose comme un D-. Volume et vitesse. Le réseau routier existant a été bâti à une époque où la sécurité ne faisait pas partie des préoccupations des décideurs, dit Owen D. Waygood. Pour un ingénieur, et nous sommes des ingénieurs, La mesure du succès, c'était quel volume de trafic vous réussissez à déplacer et à quelle vitesse. Plus de volume et plus de vitesse, c'était positif. Les gens croient souvent que les ingénieurs ont pensé à la sécurité des citoyens. Mais ce n'est pas le cas du tout. Au mieux, ils vont mettre un virage à gauche protégé à une intersection, dit-il. Ce que notre outil vient dire, c'est « Cette rue ou cette intersection présente un risque mortel pour les piétons, notamment les enfants qui vont à l'école. » Pas sécuritaire pour autant. Parfois, la dangerosité d'un tronçon routier est mal évaluée, dit M. Wigood. Des citoyens qui se plaignent de la vitesse des automobilistes peuvent se faire répondre par l'arrondissement qu'il n'y a pas d'excès de vitesse à cet endroit. Le problème, c'est que la limite de vitesse est souvent trop élevée pour assurer des déplacements à pied confortables et sécuritaires. Jusqu'ici, les décideurs pouvaient se fier au nombre de collisions pour déterminer la dangerosité d'un tronçon routier ou d'une intersection. Une mesure imparfaite, note M. Wigood. Peut-être qu'une intersection n'affiche pas un grand nombre de collisions entre automobilistes et piétons parce que l'aménagement y est tellement dangereux qu'aucun parent ne laisserait son enfant traverser là. Mais cette intersection n'est pas sécuritaire pour autant. Moins de vitesse, moins de risque de décès. Les chercheurs travaillent avec la Ville de Montréal afin de permettre aux ingénieurs d'avoir accès aux données et de mieux sécuriser les intersections et les tronçons problématiques. Même s'il s'agit d'un problème complexe, M. Wigood note qu'un immense pas en avant pourrait être réalisé pour la sécurisation des déplacements des enfants si l'on trouvait une façon de réduire la vitesse des automobilistes. Les morts sont liées à une vitesse élevée. Essentiellement, si vous réduisez la vitesse, vous réduisez les risques de décès. Si j'avais une baguette magique, j'éliminerais cette mentalité voulant qu'on doive circuler rapidement à une intersection. On doit ralentir. C'est possible de dessiner des intersections qui permettent la fluidité tout en réduisant la vitesse et les risques. C'était « Montréal dangereux pour les enfants piétons », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 7 mai 2025 dans La Presse.